De la poésie. Bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, Camus disait « Je me révolte donc nous sommes et il n'y a pas de justice », il écrit dans ses carnets « Il n'y a que des limites ». Méditez cette phrase. La justice serait donc une question simplement de frontières, de limites. Et ces limites, nous dit en le commentant Marilyn Maheso, qui est l'autrice en particulier de l'abécédaire sur Camus, mais elle dit ceci dans un numéro de la NRF, le numéro 69, qui date un peu, puisque c'était en automne 2024 que apparu ce numéro de la NRF. C'est un numéro sur le nom. Comment dire non et pourquoi le non est-il si important? Alors c'est amusant dans cette période où ce soir on va nous parler du référendum. Bon, alors reprenons ces limites de Camus. Ces limites, nous dit donc cette autrice, Marilyn Maheso, ces limites sont autant de jalons et de garde-fous que l'homme révolté dépose dans le monde par souci d'efficacité autant que de cohérence. Pour s'assurer que l'insurrection est un avenir, que ceux qui nous succéderont est encore un monde commun à habiter, et non un champ de ruines, où plus rien ne pousse ni ne renaît. Pour se rappeler à lui-même, continuellement, qu'il lutte toujours sur un double front, d'abord, bien sûr, contre l'ennemi, qui s'acharne, en le déshumanisant, à ne pas voir en lui son semblable, mais toujours aussi contre lui-même, contre les sirènes intérieures, de la colère débridée qui pourrait aisément l'amener à défigurer sa révolte au point de la lui rendre méconnaissable. Voilà, une belle pensée donc de Marilyn Maheso sur l'aptitude à dire non. Et elle ajoute un peu plus loin d'ailleurs... à l'ère des réseaux sociaux, qui caractérise notre époque, qu'on le veuille ou pas, la déshumanisation, se diffuse en temps réel par une infinité de canaux, se commente et se consomme selon le régime de l'immédiateté, qui est toute puissante, favorisant la réaction épidermique. La pensée de Camus nous donne les moyens, aujourd'hui comme hier, de déjouer les mécanismes de la fétichisation, de la violence, en révélant les limitations et le coût humain. Pour que la révolte soit féconde, le non inaugural ne doit pas être son dernier mot, mais le début d'une promesse. Donc, si vous voulez dire non, et que ce non ait un sens, il faut que derrière, il promette aussi autre chose, un renouveau. Voilà. Alors, pour passer à notre poète de la semaine, nous allons faire un petit interlude, un petit intermède musical avec un poème de Houellebecq, Michel Houellebecq, qui est chanté par Aubert. Voilà. Ah. Qu'est-ce que ça fait ? Un petit problème, ça y est.
Le monde est toujours là, rempli d'objets variables, d'un intérêt moyen, fugitif et instable, une lumière terne descend du ciel abstrait. C'est la phase B. Sans plaisir et sans vraie souffrance, je crois que c'est dû à l'usure qui te plier, tu ne sais plus que tu le futur est hydrogique. Il n'y a que le passé qui blesse, le temps du rêve et de l'ivresse. La vie n'a rien. Tout perd son attrait, le monde est toujours là, rempli d'objets variables, d'un intérêt moyen. Fugit du fait instable, les lumières terres descendent du ciel. C'est la face B de l'histoire, sans plaisir et sans vraie souffrance. Ce truc que celle du altu, qui devinait, tu ne sais plus tu le futurais. Microgite, il n'y a que le passé qui blesse, sans urène. Face B, je l'existence, sans plaisir et sans mauvais souffrance. Je sais, tu as le sûr, tu te disais, tu ne sais plus, tu en dirais. Nécrologique, il n'y a que le passé qui blesse, sans du rêve et de l'ivresse. La vie n'a rien.
Jean-Louis Aubert, dans Face B, poème de Michel Houellebecq. Nous allons maintenant faire quelques annonces sur des livres dont certainement, sur lesquels je reviendrai certainement. Du moins, je l'espère. Tout va dépendre de l'emploi du temps des prochaines émissions. Mais je tiens à signaler l'effort extraordinaire que font les éditions Pierre Ménard. Éditions Pierre Ménard, je vais vous parler de deux livres. Aujourd'hui, rapidement, pour ne pas trop peu emprunter sur le poète de la semaine, il s'agit d'abord de Stéphane Maignan. Stéphane Maignan, qui publie donc dans ces éditions Pierre Ménard, un très joli petit livre, très agréable, format de poche avec une couverture noire, livre qui ne coûte que 11 euros et qui s'appelle « Théorie des ombres ». Théorie des ombres de Stéphane Maignan. Alors d'abord, qui est Stéphane Maignan? Stéphane Maignan, il vit et il enseigne, c'est un enseignant donc, en région parisienne. De 1994 à 1996, il participe à un collectif d'édition qui s'appelle La Maison de Verre. Et là, dans ce collectif d'édition, il va publier Le Système Oculaire. Et en 2010, Stéphane Maignan publie « Nuit Talisman » dans la collection d'un seul poème, c'est une collection ça, hein, des éditions Le Cadran Ligné, édition que je vous recommande également, et en 2022, « Paysage », c'est le titre du recueil, avec des collages de Pierre Rosanski aux éditions Le Grand Tamanoir. Qu'est-ce que la théorie des ombres, selon Stéphane Maignan? Eh bien, la théorie des ombres, dit-il, j'ai vu des ombres au travers des ombres. Je les ai vues cheminer, s'entre-déchirer, puis simplement effacer leurs traces avec d'infinies précautions. Les ombres ne marchaient plus, ne luttait plus, n'était plus éclat de voix ou de roche propice aux étincelles dans l'agonie d'un écho lointain. Les ombres, entreaperçues au travers des ombres, étaient hémorragies, leur lumière noire illuminant ma nuit d'un bouquet vacillant. Ce bouquet vacillant est diffracté en théorie d'aphorismes. Donc c'est un recueil d'aphorismes, théorie des ombres, qui, sous leur lumière, révèle l'envers des choses, leur chatoiement. Et c'est le propre de la poésie aussi, de pouvoir révéler ce qu'il appelle lui l'envers des choses, mais qui est la face cachée, disons, de la vie, des choses, de tout. C'est par ces aphorismes, qui sont toujours, dont l'aphorisme est un style poétique, fatalement. Et surtout, avec cette condensation, il aide à voir justement cet autre côté des choses. En exergue, il y a une phrase de Benoît Chapu qui dit ceci: il ne faudrait qu'un seul loup véritable, qu'un seul loup de silence, pour que tous les pièges claquent au vent, laissant fuir la proie, laissant la grande ombre hurler sa joie. Écoutons maintenant les aphorismes de Stéphane Meillant. L'ombre est une loupe pour l'homme. Quand le soleil est au zénith, il n'y a même plus l'ombre d'un doute. La lumière est la blessure de l'ombre, sa cicatrice aussi. Depuis longtemps, mon ombre n'est plus que l'ombre d'elle-même. On ne sache pas qu'une ombre ait jamais lâché sa proie. La nuit, les ombres sont plus claires. Mon ombre est ma couverture sur ce chemin où je ne souhaite pas être reconnu. Il suffirait que je m'arrête pour que mon ombre ne me rattrape jamais. L'ombre est un prédateur velléitaire. J'ai toujours un temps d'avance sur mon ombre. Je m'agace parfois qu'elle me suive comme mon ombre, mais c'est dans sa nature. L'ombre est le regret des choses ou leur vanité. Faire toute la lumière sur un crime pour mettre à l'ombre son responsable. Autour d'un feu de camp, tout est démultiplié par l'ombre, y compris le silence. Avec toutes ces lumières, la ville fait de l'ombre à la nuit. Qui veut de l'ombre va au soleil. Marcher sur l'ombre de la queue d'une comète. L'ombre est le gisant des êtres. Toute logie des ombres. L'ombre d'une forêt est un pléonasme. Une forêt d'ombre est une ombre. L'ombre d'une ombre est une forêt. La forêt n'est qu'ombre, portant la canopée comme une ombrelle. Petit à petit, l'ombre fait sa nuit. Qui perd son ombre est aveugle. Lâche est la proie pour l'ombre. On n'embrase jamais que les lèvres de l'ombre. L'ombre est un miroir sans teint. Je n'ai pas encore rencontré l'ombre qui me fera changer d'habit. Stéphane Meillant, vous avez eu un aperçu là de cette théorie des ombres. Alors, c'est très agréable, ces euphorismes. C'est un livre très agréable. Une très bonne idée, par exemple, de cadeau. Stéphane Meillant, Théorie des ombres, chez Pierre Ménard. Très joli petit livre. Et puis toujours chez Pierre Ménard, de Joël Cornuau, que nous saluons ici, Joël Cornuau. Il publie un livre sur Élisée Reclus. Alors, Élisée Reclus, ce livre s'appelle Élisée Reclus, géographe et poète, et c'est suivi de Élisée Reclus, géographe consommable. C'est toujours donc aux éditions Pierre Ménard, et c'est un petit livre, aussi dans le même format, très agréable aussi, qui vous coûtera 15 euros. Alors, qui est d'abord Élisée Reclus? Ben, c'est un voyageur au long cours, c'est un anarchiste, c'est un pédagogue, et c'est surtout un géographe exceptionnel. Élisée Reclus, il a vécu au 19e siècle et un peu quelques années au 20e siècle, puisqu'il est né en 1830, en pleine époque romantique, et il est mort en 1905. Il est l'auteur internationalement réputé de la nouvelle géographie universelle. Mais on a oublié peut-être qu'il fut aussi promeneur de ruisseaux, piéton des montagnes, rêveur de plaines. Sait-on que ce savant, Élisée Reclus, profondément occupé de l'humain, fut également un écrivain à part entière. C'est ce que soutient donc le présent essai de Joël Cornuau, à partir de deux œuvres d'Élisée Reclus, Histoire d'un ruisseau et Histoire d'une montagne. Alors de cette lecture enthousiaste est né un fervent salut à l'auteur de L'Homme et la Terre, qui a paru en 1905. Alors c'est vous dire quand même à quel point ces gens-là sont véritablement des prophètes, hein, puisque c'était un visionnaire. Donné ici, alors dans sa quatrième édition, et c'est augmenté également d'une postface inédite. Alors, Joël Cornuau, nous avons consacré pas mal d'émissions sur Joël Cornuau, chaque fois qu'il publie un livre, et il a republié, présenté d'autres textes de Reclus, c'est Élisée Reclus, étonnant géographe, c'était aux éditions Fond Lac. Élisée Reclus, six études de géographie sensible, c'était chez Isolato, et du sentiment de la nature dans la société moderne et autres textes, c'était aux éditions Première Pierre. Mais Joël Cornuau est aussi l'auteur d'essais, alors l'essai sur la poésie, en particulier sur le poète André Breton, sur le poète écologique, on va dire, avant la lettre, avant la mode, qui est Henri David Thoreau. Et c'est également un traducteur, le traducteur de Konetz Rexroth et de John Burroughs. Voilà. Alors, Joël Cornuau, donc voyageur au long cours, anarchiste. Je vais vous lire simplement. Nous essaierons de revenir sur cette très belle publication. Et puis, ce géographe dont il faudra quand même parler. Hein. Et par exemple, Élisée Reclus, géographe consommable. Hein, il faudra en parler de cela. Je vais vous lire un extrait de ce livre. Les cours d'eau, bien autant que les montagnes, éclatantes réussites de la nature, ont inspiré les poètes du monde entier. Mais tout géographe, à l'instar de ses confrères en sciences naturelles, le botaniste, le géologue ou l'ornithologue, a les moyens, sans sortir de son cadre, de créer d'une certaine façon des poèmes. Qu'ils parviennent seulement à la modeste description du réel, en fuyant surtout les effets, avec l'exactitude et la concision requises, qu'ils chassent seulement regarder puis nommer, sans agencement compliqué, ce qui s'offre immédiatement devant lui, le monde extérieur. Nul ne prétend que ce soit là une tâche aisée, le voilà poète, aussi sûrement que nombre de poètes. Comme Lucrèce et Descartes, qui consacrèrent des pages splendides aux météores, comme Buffon, qui détailla la morphologie du cheval ou son adversaire l'inné, qui décrivit la plante dans l'ordre de succession de ses organes, Élisée Reclus tira un enseignement des eaux et des rocs dans lequel connaissance et poésie finirent par se fondre en un seul domaine. Si un de ses amis, tout à fait enthousiasme fraternel, crut reconnaître en lui un des meilleurs stylistes du XIXe siècle, qui tout de même n'en manquait guère, ce n'est pas de la langue scientifique et de son luxe de termes, tour à tour bizarre, nouveau, surprenant ou prétentieux, qu'il obtint un pouvoir de suggestion poétique. Au contraire, en répondant à la question « qu'est-ce qu'un ruisseau ? Qu'est-ce qu'une montagne ?», Élisée Reclus se fixa pour règle d'éviter le vocabulaire des spécialistes. Alors, j'en parlerai une autre fois, mais ceci m'interpelle un peu parce que nous avons le poète Jame Sacré qui vient de faire paraître, et nous en parlerons dans les prochaines semaines, un livre sur justement les objets, comment nommer les objets, et on retrouve là, effectivement, une des interrogations de Joël Cornuau à propos de Élisée Reclus, mais à propos tout simplement de ce qui fait la poésie des mots et la poésie des choses. Voilà. Alors je rappelle le titre, Élisée Reclus, géographe et poète, suivi de Élisée Reclus, géographe consommable, aux éditions Pierre Ménard de Joël Cornuau. Donc à lire parce que vraiment c'est très très enrichissant comme lecture. Alors nous allons maintenant consacrer cette émission à un poète qui s'appelle, alors il écrit en français, mais il a écrit beaucoup en espagnol. Il s'agit de Miguel Ángel Real. Miguel Ángel Real, il est né en 1965 dans la belle ville de Valladolid. Il a été élève au lycée, puis ensuite à l'université, étudiant donc à l'université de Valladolid, où il a poursuivi des études de français. Puis, il fut engagé comme journaliste à France Presse, en France. Et actuellement, il est professeur, Miguel Ángel Real, il est professeur d'espagnol, devinez où ? Eh bien, en Bretagne. À Quimper. Quimper qui est une ville aussi en poésie. Difficile de ne pas évoquer la figure de Brigitte Maillard, qui était la belle poétesse, et également éditrice de Le Monde en poésie, que nous saluons et nous rendons hommage à cette femme remarquable qui a fait vivre aussi la poésie à Quimper. Quimper, donc, qui est la ville où vit notre auteur, Miguel Ángel Real. Miguel Ángel Real, eh bien, il est donc agrégé d'espagnol, il est poète, il est traducteur de poésie contemporaine, et ses travaux, aussi bien en espagnol qu'en français, sont parus dans de très nombreuses publications en France, en Espagne et en Amérique latine. Alors, il est l'auteur, entre autres, des recueils Zoologías. Ça, c'est un espagnol, et c'est aux éditions en Huida, en Espagne. Y Comodados Redondos, aux éditions Cisnegro, ça c'est au Mexique, c'est des éditions très connues au Mexique, dont il existe une sélection bilingue en France, Comme un Déron. Ça a été publié Comme un Déron, donc en français et espagnol, aux éditions Sémaphore. Et puis, très beau livre, Les Rébellions Inutiles, aux éditions Douro. Aux éditions Douro, donc on va retrouver d'ailleurs Philippe Pichon qui publie aussi ses éditions Douro. Je vous invite à regarder leur catalogue, à regarder leur site, par exemple, édition Douro, D-O-U-R-O. Et puis, Virtudes de la Inercia, aux éditions La Stura,
en Espagne, et le givre promis, ses auditions Tarmac, ainsi qu'une dizaine de livres de traduction. Hein, Réal, il a publié, réalisé seul ou peut-être en collaboration des fois. Mais il a participé à différents festivals de poésie en France et en Espagne. Il est co-directeur, alors, d'une belle plateforme poétique qui s'appelle Oupoli. Alors, Oupoli, avec un mot, O-U, plus loin, P-O-L-I, ça veut dire ouvreur de poésie libre. C'est un petit clin d'œil à l'Oulipo. Donc, ils ont fait de l'Oulipo, eux, ils en ont fait l'Oupoli, l'ouvreur de poésie libre. Allez sur Internet et vous marquez Oupoli, Oupoli.fr, et vous avez ce site qui est un site particulièrement intéressant. Alors, il est publié par la revue et édition, puisque les deux sont en définitive la même chose. On parle de revue, mais en définitive, c'est toujours la publication d'une petite plaquette, donc à Encre Vive. Encre Vive, c'est le numéro 543, vous vous rendez compte, 543 de décembre 2024. Il coûte ce numéro 6,60 €, mais vous pouvez vous abonner à Encre Vive avec 12 volumes par an pour la somme de 40 €. Il vous suffit d'envoyer un mail à Encre, en minuscule et au pluriel, un point, vive 34, encre vive, toujours en minuscule avec un S, 34@gmail.com, encre vive 34@gmail.com, pour vous procurer soit l'abonnement, soit ce numéro de Miguel Angel Real, Constat du désordre, c'est le titre de ce recueil qui constitue donc ce 543e numéro d'Encre Vive. Je vais vous lire des extraits. Alors, ce sont des poèmes généralement très 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 brefs. Hein. Pas que, mais essentiellement des poèmes brefs. Et où vraiment il y a là un effort de pouvoir aussi dire le réel directement à la racine, sans fioriture, en élaguant au maximum, en retenant avant tout le sens. 1. Les voix passent, le temps reste, constat du désordre. 2. Élan ou obstination, qu'importe le délai, on attend sur les voies une erreur d'aiguillage. 3. Oubli. Parole ensevelie. Les parenthèses sont de piètres refuges où grelottent les promesses de l'été. 4. Le vent rend vrai la saison. L'instant n'est pas ébranlé. Aucun besoin d'imaginer un ailleurs, être dans la tempête, apprentissage. Alors, si on regarde la forme de ce poème, ce sont des vers d'une extrême brièveté, puisque un seul mot peut constituer un vers. Par exemple, le mot « être », « être », puis plus loin dans la tempête, « être », suffit à constituer un vers. Donc vous voyez, vraiment, on veut que chaque mot ait une importance énorme dans le poème. 5. Remplacer la mémoire par un oubli choisi. Alors, ceci qui pourrait s'écrire en une demi-ligne va prendre 3 vers. Ça veut dire qu'en mettant un exergue, chaque mot, comme ça, remplacer la mémoire par un oubli choisi. Il y a donc une insistance sur le sens que peut prendre simplement quelques mots à la suite les uns des autres. Et en même temps, il dit beaucoup de choses. Quand on dit « Oh là là, j'ai oublié », mais c'est toujours... les oublis sont souvent des oublis choisis. Hein. Les psychanalystes ont fait fortune avec ça. 6. Ce qui est flou est le regard, pas l'image. Donc, je ne sais plus qui c'est qui disait, c'est la qualité du regard qui fait le personnage, et c'est ce qu'il dit aussi. Réal. 7. Le dos de la nuit est trempé, mais les gouttes s'enflamment. Combustion noire, comme le poids des mots non dits. Le vent apporte une présence plus lourde que le temps. C'est un signe d'alcool que l'on ne peut quitter. Le possible s'estompe comme une façade friable sur une fausse impression de mouvement rêvé. L'hiver s'obstine et apporte sa forge sans flamme, et on n'entend qu'une liberté sans but restée au milieu du parc. Miguel Angel Real, Constat du désordre, aux éditions Encre Vive. 8. L'envers a la vertu du secret. Je connais le mouvement qui se cache sous le portrait figé. Les apparences ne trompent que la réalité. Un regard qui se délecte dans la désinvolture a le droit du soupçon, infime révolution qui tient, indicible, un mécanisme qui est essence. J'ai accès à l'envers d'un monde univoque. Alors ça, c'est important, surtout à notre époque, où on ne cesse de dire que effectivement le monde doit être univoque pour tourner rond, où on vous explique que ce qui se passe et tous les phénomènes économiques que l'on reproduit à l'envi sont des phénomènes inéluctables. Eh bien, il y a un poète, en l'occurrence Miguel Angel Real, qui vit en Bretagne, qui est espagnol, qui a été formé à Valladolid, mais qui dit « J'ai accès à l'envers d'un monde univoque ». C'est-à-dire que lui, ce monde univoque, par la langue, par la réflexion, par la pensée, il va pouvoir retourner la médaille et voir donc l'envers de la médaille, c'est-à-dire d'avoir accès à un monde qui ne soit plus un monde univoque, mais un monde équivoque, comme est le monde de la poésie. 9. Oubli qui s'immisce dans la ligne, oubli recherché qui tente à l'effacer, tentative vaine mais grisante. Rechercher l'horizon nous rend coupables devant les autres. Rien, sauf la ligne, n'est une solide attache, un amarrage transpercé d'huile, venu s'entremêler à nos lignes maîtresses. Effacer la ligne, s'effacer sur une plaine où rien ne nous différencie de la ligne, rude tache minéral. 10. L'effort de l'insecte contre le vent, du silence contre l'orgueil de la présence, de la parole, pour se démunir des carapaces. Permanence des gestes, la vie sans question, un infini besoin de chimère. 11. La tendance à la défaite rejoint l'obsession des choses insignifiantes. 12. La crainte des mots d'amour dans le poème, comme dans la vie, abus d'herméneutique, priorité accordée à la plaine, refus des angles, des rebords, comme si la prudence et l'absence et le vide étaient capables de guider nos pas. Alors il y a là un appel, évidemment, à aller contre la prudence, aller contre le mimétisme qui nous englobe de toutes parts. Hein. Et c'est peut-être le propre de la poésie, en définitive. Hein. 13. Se rapprocher ne devrait pas être une tâche, mais un renoncement de la routine acquise. Appliquez ça au peuple, par exemple. Que les peuples se rapprochent ne devrait pas être une tâche, mais un renoncement de la routine acquise. 14. Une parole est le centre du monde. Le silence ressemble à l'appel du vide quand on se promène sur les falaises. Qui n'a pas éprouvé un jour cette sensation vertigineuse, cet appel du vide? Et, par exemple, lorsqu'on a fait de l'escalade ou de la spéléo. 15. La transformation est la clé de la patience. Mais vers quelle pluie avancer? 16. Devons-nous choisir une lave qui ne répond pas au silence? Le rouge gît, la vapeur du contact sera aussi le gaz toxique. Et puis, un poème un peu plus long pour Maria Febrero. Pour éteindre la trahison, nous n'avions que des crachats de poussière. Un bras autour de la taille en traversant le pont, la tente noire de la pluie sur la plaine et les égouts recouverts par une terre stérile. La peau craquelée des doigts d'hiver, le silence qui dans son fourmillement de sécheresse accompagnait mon retour et toi, seul, comme une sculpture de sable, se souvenant du fleuve, un banal carrefour de nuages et comme seul décor, les cendres d'un poignard improbable. Voilà, le ton a changé ici, il rend compte d'une expérience, d'un vécu plus précis, un vécu avec une femme, et avec de très belles images, hein, fourmillement de sécheresse, et puis nous n'avions que des crachats de poussière pour éteindre la trahison. Belle image, les crachats de poussière. 18. Il n'est pas l'heure d'attendre. Il faut créer un monde de retrouvailles et de verbes nouveaux qui engendrent une peur immense devant les yeux de ceux qui s'accrochent à leur condamnation dorée, de ceux qui ignorent, de ceux qui sont sourds, de ceux qui font du mépris une blancheur à étendre. Respirer est un simple tropisme. Et pourtant, les collines, l'insolence d'un appel dont on devine à peine les traits, L'obstination pourtant des corps qui ne savent flotter, les restes d'un monde qui jamais ne se fige, sculpte une signature qui ne se dessèche pas. Être sans réponse à travers les défis d'un poème qui ose. Voilà, Real, Miguel Ángel Real, qui ose. Et c'est curieux de voir que cet homme qui vient d'Espagne, certes de Valladolid, où on parle bien le castillan, c'est une belle langue à Valladolid, mais l'Espagne. Et je pense à ces mots de Michel Castillo, dans son premier livre, je pense. C'est l'histoire Tanguy, qui est l'histoire d'un enfant d'aujourd'hui, hein, Tanguy, qui se retrouve dans un camp d'internement en France, puis un camp de concentration en Allemagne, à 12 ans. Et l'Espagne, dit-il, Michel Castillo, l'Espagne, il dit, c'est le désert. Et le désert est un infini, ce qui était étonnant en Espagne. C'est cette étrange parenté de l'homme et du paysage. L'Espagne, qui se devait être le pays des fanatiques, des exaltés, des mystiques, Quichotte et Panza seraient tous deux morts de tristesse, nous dit Michel Castillo, dans ces prés verts tout hérissés de haies, de murs. C'est pas rigolo, ça, de lire ça en pensant à Miguel Ángel Real, qui, lui, ben, il vit à Quimper, donc dans les brumes de Quimper, avec cet océan, avec ses pluies, et effectivement cette grande étendue de vers, de bois, de prés. Lui qui vient de cette région d'Espagne. 19. Cette transparence que l'on recherche tant est-elle compatible avec les souvenirs qui s'estompent? Principe de réalité ou impossibilité de déchiffrer le courant dont la forme est une définition changeante? Ne pas craindre la fluidité ni le va-et-vient de l'ombre qui n'est jamais une contrainte, mais plutôt une voie à suivre, ouverte aux questions et loin des temples. Voilà. Difficile de ne pas penser également à ce que nous avons lu tout à l'heure de Stéphane Maignan, hein, Théorie des ombres, où lui, là aussi, il va ne pas craindre la fluidité ni le va-et-vient de l'ombre. Ça pourrait être un euphorisme de Stéphane Maignan. 20. Rien ne vit s'il n'y a pas de distance. Les coordonnées nous définissent et en convoitent les récits, sincères ou fantasques, les retours, racontés ou écrits, les chimères comme de vrais repères. Quel est le sens des voiles sans les limites de l'espace? Quel vaisseau trouverait le courage de se voir refuser les escales? Sans connaître la durée du parcours, il vaut mieux avoir les jambes brisées et devancer ainsi la douleur d'un journal de bord dont les pages blanches nous aveuglent, antinomie du phare, pupille brûlée par le sel des lames qui jamais ne se brisent. Mais quand le silence efface les mesures, on dérive vers la folie imposée par des rochers d'infini, le sourd fracas à venir est une promesse, la parole est un territoire indispensable, son absence devient une écume acide sur la peau que plus rien ne protège. Quand plus personne ne parle, rien ne définit le paysage. et on marche alors sans but, éreinté par les sens perdus. On finit par se taire, on brise les cartes, et le monde s'étend à perte de vie. Miguel Ángel Real. Constat du désordre. 21. Une colonne vertébrale allongée, rouge peut-être, ou qu'importe, la tête, la matière, le poids, les ombres portées, ton dos décharné est présent, et j'ai envie de me faufiler dans les interstices de ton squelette. 22. On revient aux euphorismes. Un silence dénudé d'anecdotes, une source. 23. Entrer dans le tunnel mérite une bonne maîtrise de l'inertie matinale. 24. Le monde qui change aime une sorte de vitesse qui n'est pas celle des graines dans la terre. 23. On pourrait revenir longuement sur ce poème, hein, puisque notre période de l'immédiateté, comme j'en parlais tout au début de cette émission, l'immédiateté qui est la loi maintenant de notre monde, ce monde qui change donc à toute vitesse, et à cette vitesse évidemment qui nous rappelle Real, qui possède des graines dans la terre. Voilà. Est-ce qu'on est adapté à cette vitesse? C'est la question que l'on peut se poser quand même. 25. On appelle le tropisme les contraintes, comme pour adopter un ton sauvage qui fait défaut à nos journées monotones et se croire plus libre. 26. Le sens des responsabilités est malléable et prend parfois la forme, la voix, la texture de ces fauves dont on ignore tout. C'est qui les fauves? Est-ce que ce ne serait pas ces puissants qui nous gouvernent, hein? 27. N'écris pas des poèmes sur la grisaille. Décembre n'est qu'un mirage, une passerelle de marbre vers un chemin qui bifurque toujours. N'écris pas des poèmes sous un soleil qui vacille. Quelles rimes perceront si tes membres ne connaissent pas la fermeté des nuages du solstice? N'écris pas avant que tu ne sois à nouveau né. 28. La lumière, comme une fortune évasive, se joue de nos peurs et de nos doutes. Nous sommes nous-mêmes un tropisme. 29. C'est un poème qui est dédié à Cédric Merlan. Peu à peu, on laisse derrière soi les barrières. Le but est négligeable. La démarche, même lente, a du sens par elle-même. C'est ainsi qu'on parvient à mépriser l'obscurité, en réapprenant à trouver des nuances par-dessus les vieux murs des citadelles. 30. Quel discours sur le soleil pourrait nous convenir, humains comme nous sommes, indécis, opiniâtres, quand la soif nous guette et qu'on refuse souvent les camouflages et les grimoires qui pèsent sur nos rêves? La nature est un silence ou une quête, un effort d'écriture pour s'effacer et que les dissonances se replacent d'elles-mêmes sur une route à établir sous la lumière, s'éloigner des versets et briser les boussoles et, dans l'écoute sereine toujours éveillée, bâtir un décor qui subsiste à force de poèmes, humains comme nous sommes, imparfaits, brillant dans nos fractures pour contrer le courant. Voilà. Toujours cette même idée, hein, de contrer le courant. Et on voit que le poète est en définitive celui qui va toujours à contre-courant. 31. Qu'est-ce qui s'ouvre sous la peau qui démange ? La fuite est une question de lâche. Mais la dérive du temps attire et absorbe pour remettre à demain les pensées autour du corps et de l'âme. Combien de minutes dure la fraîcheur du pain ? Je le sens rassir à chaque seconde pour bannir la perfection de matin qui est encore une attente. 32. L'oubli pousse sur l'écorce des mots qu'on néglige. Il est là, le devenir du monstre. Alors un poème qui dit que une des missions du poète aussi, c'est de laver les mots, donc de les dépoussiérer, de le désengrasser du langage commun, de manière à ce que ces mots reprennent leur sens. L'oubli, il dit, il pousse sur l'écorce des mots qu'on néglige. Alors, il y a des mots aussi qu'on oublie et qu'il faut peut-être refaire ressurgir. Mais surtout, il faut, et c'est son exercice justement de poète, sa mission de poète, c'est de laver les mots de tous les jours pour faire apparaître la puissance, toujours, du mot, du langage. Voilà. Ainsi, donc, s'achèvent les poètes. Donc, c'est 35 poèmes de Miguel Ángel Real, Constat du désordre, aux éditions Encre Vive. Encre Vive, donc, vous pouvez vous procurer à Encre un poème. Vive 34, encre.vive34@gmail.com. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.